moi je vais prendre le plat du jour.
On envoie la bohémienne pour la 14, bien chaude. On y va.
Allez, on envoie la tarte au citron à la 5, les gars, s'il vous plaît.
Europe 1.
Et moi, je vais prendre la brioche perdue.
11h, midi 30, la table des bons vivants, Laurent Bariotte.
Bien bonjour les amis, ça y est, nous voilà, nous sommes ouverts, comme de nombreux commerces qui attendaient ce jour avec impatience. Alors ce samedi, nous allons nous mettre à la table des présidents avec Guillaume Gomez, le chef cuisinier de l'Elysée, va nous raconter plein de choses anecdotiques et historiques, de Kennedy à la reine d'Angleterre. Il va nous raconter en fait l'importance de la gastronomie dans la diplomatie. Voici mes diplomates et mes bons vivants du jour. Princesse de la plume gastronomique pour le journal du dimanche. Elle nous invite à la table de chef cuisinier inspiré et inspirant, c'est Charlotte Langrand.
Bonjour Laurent, bonjour à tous.
Bonjour Charlotte. Né au pays du roi des Belges, il est devenu ambassadeur du vin en France. Voici le prince du goulot, une ligne différente du prince de Galles. C'est Olivier Pouls.
Le prince du goulot, c'est pas mal. Ouais.
C'est pas mal ça.
C'est pas mal, le prince celle-là. De Galles, bonjour prince à du tous. Ouais.
Et nous allons continuer, chers auditeurs, écoutez bien, de mettre les petits plats dans les grands avec notre invité, Patrick Bruel, le vrai, l'officiel. Il sera à notre table juste avant midi. Allez, en route. Alors je le disais, hein, la vie reprend son cours petit à petit, nos déplacements sont toujours limités, d'accord, mais rien ne nous empêche encore une fois de faire le marché pour cuisiner, parce que ça c'est vraiment quelque chose qui fait du bien. Et à propos, chers amis, posez-vous la question, tiens, en voiture ou à la maison, quel est votre goût de la semaine, Charlotte?
Et bah pour ceux qui se seraient mis au pain pendant le confinement ou les deux confinements successifs, je vous propose ce livre Poilane, des grains au pain d'Apollonia Poilane, hein, qui est une histoire de recettes et de pain et de bon pain, mais aussi de famille, sur la famille Poilane, le grand-père, les parents, la sœur.
Transmission.
Voilà, la
et
transmission.
Et le courage d'Apollonia qui a repris, exactement, après la disparition dramatique de ses parents, voilà, la boutique. Oui.
Il y a des recettes, des histoires et des moments du pain, celui du petit déjeuner, du déjeuner, de la nuit aussi, de minuit. Il y a aussi des sablés, des recettes. C'est vraiment une bible, une petite bible pour apprendre le pain vivant. Et c'est aux éditions La Fabrique de l'Épure.
Oui, il n'y a pas que du pain, il y a aussi des petits gâteaux. Exactement. Olivier Pouls, votre goût de la semaine?
Eh bien, figurez-vous que je n'aime pas les carottes râpées. Enfin, je n'aimais pas trop
ça,
les carottes râpées. Ouais. Jusqu'à la semaine dernière. Et à l'issue de l'émission, on avait fait, on ne va pas trahir tous nos secrets, mais on avait fait un petit casse-croûte.
Hein, oui, c'est vrai.
Voilà. Et Lucie Lescourot, qui est derrière cette vitre, notre rédactrice en chef, avait fait un saladier de carottes râpées. Eh bien, je n'avais jamais mangé d'aussi bonnes carottes râpées de ma carrière. C'est dire, parce que ma carrière, elle est longue quand même. Alors, j'ai essayé de lui extorquer la recette. Elle a fini par me l'en livrer, j'espère, en tout cas, l'essentiel. Donc, huile de sésame, gingembre, ail, wasabi, sauce soja, miel, coriandre, persil, ciboulette.
À l'asiatique.
Et quand même un peu de carottes.
Et elle me dit à l'oreillette qu'elle ne vous a pas tout donné, comme justement
bah,
les bonnes cuisinières,
elle
en garde sous le pied.
C'était délicieux. Lucille, tu nous en refais quand tu veux.
Oui, mais c'est vrai qu'on a une belle bande qui cuisine bien. Et Jean-Luc Arblade nous apporte de belles choses aussi, parfois, notre réalisateur qui est gourmand et qui est revenu, qui était en vacances. Et je peux vous dire qu'il a fait des stocks en revenant. Mon goût de la semaine, c'est un croque-monsieur, tout simple, que j'ai fait en famille, mais avec la vraie béchamel, le bon jambon de Paris que j'ai acheté.
De la béchamel, vous il y a deux écoles.
Alors, moi, j'ai mis de la béchamel et je peux vous dire que ça fait
meilleur.
Un carton à la maison. La béchamel, le bonnet mental. Et puis, je mets du beurre aussi, vous savez, en haut du pain de mie pour que le beurre nourrissent le pain de mie. Ah oui, c'est riche. Hein.
Cuit au four ou cuit à la poêle?
Cuit au four. Cuit au four avec le beurre par-dessus la dernière tranche qui vient toaster comme ça.
Ça reconstitue.
Un bon croque-monsieur. Et puis une petite salade d'endive à côté, un peu de végétal.
Pour la bonne conscience.
Et on est content. Et pour la bonne conscience. Allez, direction Montsartou dans le midi pour faire le marché. Alors vous le savez, la ville est connue hein, pour sa cantine scolaire 100% bio. On en parle souvent. Et un nouveau marché vient de se mettre en place il y a un mois tout juste, poussé par les habitants. Une belle initiative citoyenne. Eh bien, Frédéric Michel, notre correspondant dans la région, y est allé pour assister à la rencontre des habitants et des producteurs locaux. On les entend.
Moi, j'ai pris des super salades, scaroles, des grosses feuilles d'épinards bien dodues, chez les petites dames qui font les légumes, et des pommes Chantecler pour faire un super crumble aux pommes. Pommes et miel, c'est le top. Ici, on est content parce que c'est un marché producteur, donc on sait qu'on n'a que des bons produits.
C'est la proximité, c'est du raisonnable et du raisonné, on sait d'où ça vient, et puis il y a une éthique aussi.
J'ai pris du chou-fleur, du brocoli, du potimarron, des patates douces, des carottes, des oignons, des poireaux. Et je fais des légumes à la vapeur, tout simple. Moi, j'ai beaucoup de plaisir à les préparer, à faire des coupes différentes, des associations différentes. Il faut oser.
Il y a un petit chou-fleur jaune, plus doux, paraît-il.
Ouais. Ça a été en partenariat avec la mairie et puis les habitants. On a poussé un petit peu pour ça. Moi, personnellement, autour de ça, je fais un projet d'échange de terre contre ceux qui veulent faire un potager et qui n'ont pas de terre.
Tout à l'heure, j'ai vu là-bas, il y a des mains de Bouddha. Vraiment, il y a beaucoup de produits différents.
La dame là-bas, elle vend des micro-pousses pour mettre dans la salade. Par exemple, la dame ici, elle fait des biscuits au safran. C'est quand même original, des biscuits au safran.
Bah oui, c'est bon, mais c'est vrai que du safran, on en trouve partout maintenant, mais des biscuits au safran, ça donne tout de suite effectivement une belle dimension. La main de Bouddha, c'est pas un produit tripier, hein, c'est un agrume.
Non, ouais, c'est un agrume qui ressemble à une main d'ailleurs.
Ouais, il y a le pied de cochon, la main de Bouddha, mais c'est pas pareil. C'est vrai que c'est très très bon ça, la main de Bouddha, ça se râpe comme ça avec des petits zestes. C'est très impressionnant, on dirait des doigts crochus
oui,
un petit
beau.
Peu. À propos de producteurs locaux, chers auditeurs, et vous qui êtes parisiens surtout, là, pour le coup, je vous signale Paris Fermier. C'est une association d'agriculteurs qui organise des marchés de producteurs dans Paris et sa banlieue environ tous les mois. C'est rue Saint-Charles aujourd'hui et demain, dans le 15e arrondissement. Il y a 42 départements représentés,
42,
Charlotte.
42, pas moins, oui, qui seront représentés ce week-end. Des huiles de noix de l'Aveyron, des pommes anciennes du Nord, des gibiers de Seine-Maritime, un petit condensé de la France agricole.
Et mention spéciale à tous les marchés producteurs et les marchés paysans partout en France. Bien entendu, c'est une bonne façon de préserver nos circuits courts et puis de soutenir nos agriculteurs qui en ont besoin parce que les restaurants sont fermés et on a quand même pas mal de choses à vendre.
Et ils ont des produits, eux.
Et à manger, exactement. Tiens, petite devinette, qu'est-ce qu'une cabocha ? Est-ce que c'est un béret en langue basque, une courge japonaise ou une danse slave ?
Bah, vu la thématique de l'émission, j'aurais tendance à répondre deux. Ou alors, je suis trop
fort. Qu'est-ce que vous êtes fort ? Alors, ah là voilà. On va passer les courges à la casserole juste après ça. Ne bougez pas et merci d'être avec nous. On est ravis. Bon samedi.
On passe à table sur Europe 1.
On se bourre des quiches et on boit des énormes pintes de bière. Mais on rigole en même temps.
Laurent Mariotte.
On ne fait pas que ça. Une belle allusion.
Une bonne quiche, c'est bon.
Ouais,
hein.
C'est Jacques Villeray, ça, dont Papy fait de la résistance. Alors, pour changer du potimarron et de la butternut, on accueille une petite nouvelle venue tout droit de l'Empire du Soleil Levant, d'une belle robe verte vêtue. Je vous présente la cabocha. Rien à voir avec la quiche de Jacques Villeray. Hein. C'est une sorte de potimarron vert à l'extérieur. Vous connaissez, Olivier ?
Oui, c'est vrai qu'on les voit de plus en plus, puisque maintenant, quand on voit les courges sur le marché, c'est hallucinant. Il y en a au moins 10 ou 15 sortes différentes.
C'est vrai.
Et, et dedans, on la trouve. Depuis quelques années, on la voit. Ouais.
Mais elle a ces petites notes de châtaigne et de marron, un peu comme le potimarron.
Exact,
justement.
Ça ressemble. C'est très doux. Vous qui fréquentez la table des chefs cuisiniers, est-ce que vous en avez dégusté chez de grands chefs ?
Quelques chefs la cuisine, hein, comme Christophe Moret au Shangri-La ou comme Kei Kobayashi. Je crois qu'ils font un peu comme toutes les courges. En fait, on peut les paner. On peut faire des crémeux de cabocha ou des mousses de cabocha avec des Saint-Jacques, par exemple, comme ça.
Et on va vous donner des idées d'accords que vous pourrez cuisiner simplement avec la cabocha juste après le reportage. Tiens, justement, Julien Amat, qui fait partie de la bande, a rencontré Maxime Foll, un des fondateurs du Jardin des Mille Pas à Rennes. Et ils ont récolté ensemble, il y a quelques semaines, la cabocha. Et ils nous parlent de sa culture entre deux belles plantes. Écoutez.
Pour les récolter, en fait, on a une petite vrille en fait, juste à côté qui sert à s'accrocher. Hein. Dès qu'elle est sèche, c'est le moment de les récolter. Parce que nous ici, on est un peu feignants, on ne veut pas mettre de tuteur. Donc on utilise une plante, le maïs. On va essayer d'associer les légumes. Donc après, il faut expérimenter beaucoup parce que c'est beaucoup d'expérimentation. On va avoir la courge qui, elle, va ramper en fait, sur le sol et protéger le sol notamment du dessèchement. Et ensuite, la dernière, hein, c'est le haricot. C'est une fabacée donc, qui va capter l'azote de l'air et restituer l'azote après au sol pour les deux autres. Donc on les appelle les trois sœurs aussi, parce qu'elles s'entraident mutuellement en fait dans cette technique de culture. Moi je tourne un petit peu le pédoncule hein, qui va tenir la courge. Donc là c'est un potiron cabocha hein, qui est la remplaçante de la butternut. On parle souvent de la butternut et celle-ci elle est très sucrée. Une chair très, très orange et elle fonctionne plutôt bien chez nous. Là, nous on a un terrain qui est très sableux, très sec. Ça peut faire aussi des tartes sucrées. Très très bonne. On va faire vraiment une purée hein, et après on va mettre ça dans une pâte brisée et ça va faire une petite tarte très très bonne. Magnifique.
Eh ben on prend ça, la courge, le haricot et le maïs et en plus on peut les cuisiner ensemble après. C'est vraiment malin hein, cette association de cultures. Il fait la même chose en été avec du melon, de la tomate et du basilic. Et encore une fois, c'est ce qu'on dit souvent à cette table, quand les choses poussent les unes à côté des autres,
elles ont quelque chose
à se raconter dans l'assiette et c'est vraiment intéressant. Merci Maxime. Donc dans ce beau jardin des Mille Pas à Rennes, comment vous aimez cuisiner le cabochage ? Je parlais de recettes simples pour nos auditeurs, Olivier.
Ben c'est vrai que tout simplement, comme on dit, un crémeux, c'est-à-dire pas une soupe pas trop liquide, mais quand même avec de la texture. Et puis moi, je l'agrémente tout simplement avec quelques petites graines. Je mélange avec des petits dés de jambon, par exemple.
En velouté.
Hein. Et c'est vrai que ça marche extrêmement bien. Et c'est rassasiant.
Ouais. On peut le glisser dans un couscous de légumes aussi. Un beau quartier comme ça de cabocha, même avec la peau, ça va jouer avec la couleur. Si elle est un peu trop épaisse, au pire, vous ne mangez pas la peau. Mais la chair est vraiment fondante. C'est comme vous disiez, Charlotte, c'est un petit goût de châtaigne. Hein.
Oui, c'est ça. On peut la rôtir aussi comme une patate douce, par exemple.
Ou un gratin. Un beau gratin avec du fromage par-dessus. On gratine le fromage et c'est magnifique.
Moi, j'en fais des quiches, par exemple, des petits dés de cabocha, comme on pourrait faire avec la butternut ou le petit marron. Vous les faites revenir dans un petit peu de beurre, ces petits dés, sur une belle pâte feuilletée dans le moule, et puis la migaine par-dessus, ce mélange de crème d'œuf avec beaucoup de muscade ou du 4 épices, parce que les courges adorent les épices. Donc n'hésitez pas à faire des quiches bien relevées, 30 minutes à 180 degrés. On vous mettra les recettes évidemment sur europe1.fr. Et maintenant, c'est l'heure de répondre à vos questions.
Laurent Mariotte sur Europe 1.
Et pour cela, nous accueillons Fanny Rascle. Bonjour Fanny.
Bonjour Laurent, bonjour à tous. Fanny.
Merci d'être avec nous et vous avez toujours, comme chaque samedi dorénavant, fait une belle récolte un peu partout, hein, racontez-nous.
Exactement, sur la page Facebook des Bons Vivants ou au 3921, vous avez l'habitude. Si vous avez besoin d'un conseil pour faire vos courses, d'une astuce en cuisine, nous sommes là. On commence cette semaine par un message sur le répondeur, justement.
Bonjour Laurent, je m'appelle Martine, j'habite dans le 19e. J'invite souvent mes petits-enfants, ils adorent le poulet rôti, donc je leur fais un poulet rôti. Comment est-ce que je pourrais faire pour avoir vraiment des poulets moelleux, étant donné que j'ai quelques expériences lamentables derrière moi de poulets trop secs? Je vous remercie d'avance, au revoir.
Merci Martine. C'est vrai que le danger du poulet quand on le fait au four, c'est qu'il soit un petit peu sec, et surtout les blancs.
Oui, parce qu'il y a une différence de temps de cuisson entre le blanc et la cuisse. Alors moi, je démarre toujours, et c'est vrai que c'est un vrai débat, mais je démarre toujours à four froid.
Ouais.
Parce que si on démarre la cuisson du poulet rôti à four chaud, il va se contracter immédiatement et il va avoir tendance à sécher. Alors que quand on démarre à four froid et qu'on monte tranquillement en température, on n'agresse pas la viande et on a en général un poulet qui est plus moelleux. Et puis, il y a votre technique qui consiste à le mettre sur le côté, en fait.
Oui, alors, mais je fais un petit peu comme vous. Je démarre à froid, effectivement. Je vais le mettre sur une cuisse pendant une demi-heure à 170 degrés, donc vraiment sur le flanc. Je l'arrose régulièrement parce que je l'aurai salé, bien entendu, huilé et beurré. N'oubliez pas le sel, hein, c'est important pour avoir une peau bien croustillante. Donc, sur une cuisse, une demi-heure en l'arrosant. Je le retourne sur une autre cuisse. Pareil, encore pendant une demi-heure, je l'arrose. Et ensuite, je le renverse carrément sur la poitrine. Ce sera le dos du poulet, les fesses du poulet qui seront
en l'air,
les fesses en l'air si vous voulez, mais la poitrine jamais au contact du haut du four. Et là encore, on va continuer trois quarts d'heure comme ça en l'arrosant. Vous comptez une heure et demie de cuisson en tout. Et ensuite, surtout, le temps de repos sous une feuille de papier d'aluminium pendant 10 minutes. Là, Martine, vous aurez vraiment un poulet qui va être fondant et moelleux à l'intérieur.
Et alors moi, la chef Chloé Charles m'avait conseillé de mettre du verre de poireau à l'intérieur, ce qui pendant la cuisson pour à la fois humidifier et parfumer.
Eh ben pas mal aussi. Mais on prend, voilà, ça en fait pas mal, hein, des techniques.
Gymnastique du poulet et
Une autre question peut-être, Fanny?
Oui, c'est Jérémy qui voudrait comprendre à quoi correspondent, vous savez, les petits numéros qui sont inscrits sur les coquilles des œufs. Il est perdu, nous aussi.
Oui, mais c'est vrai que ça, c'est bien de les connaître, hein, Charlotte.
Alors, sur chaque emballage, en fait, c'est le mode d'élevage qui doit être précisé. Donc, on a toutes les conditions de vie de la poule. Alors, 0, ça veut
dire... Il y a 4 chiffres.
0,
1, 2, 3.
0, c'est bio. 1, ça veut dire plein air. 2, au sol. 3, en cage.
Poubelle.
3, on oublie. 3, on oublie. Surtout que ça va être maintenant interdit avec l'Union européenne et que, voilà, on oublie, on prend du plein air ou du bio, mais voilà, élevé en liberté. Eh bien, merci Fanny pour cette belle récolte de questions et on continue à les poser. Hein,
exactement, au 39, 21, 50 centimes par minute sur Twitter, sur Facebook, évidemment. Et puis, on vous donne rendez-vous demain matin dans votre boîte aux lettres avec la newsletter Cuisine. Cette newsletter, c'est une manière toute simple de recevoir des conseils, des recettes. Il suffit de s'abonner en allant sur europe1.fr.
Vous êtes très nombreux d'ailleurs à vous abonner à cette newsletter. Donc continuez, effectivement, il y a des conseils, des trucs et des recettes.
Merci Fanny. C'est vachement
bien. Je n'osais pas le dire. Merci Fanny, ne bougez pas. On se retrouve dans un instant avec votre journal de la cuisine. Et puis Jean-Luc Petit-Renaud va nous raconter une belle histoire de table. A tout de suite.
Europe 1, la table des bons vivants. Laurent Mariotte.
Nos présidents se sont-ils toujours bien tenus à table? Quels sont les menus présidentiels qui ont nourri la diplomatie? Eh bien, Guillaume Gomez, le chef cuisinier de l'Élysée, nous invite à la table des présidents. Dans un instant, il est en train d'arriver et de s'installer. Mais en attendant, voici les titres de votre journal de la cuisine, chère Fanny Rascle. Les restaurants fermés pour 2 mois de plus, une semaine pour soutenir l'agriculture française et un gâteau solidaire avec le Secours catholique. C'est votre menu. Alors, les restaurateurs ont désormais une date en tête, le 20 janvier 2020.
Et pour les professionnels, c'est une petite lueur d'espoir ce calendrier. Et en même temps, c'est la douche froide pour ceux qui espéraient rouvrir pour la période tellement importante des fêtes. D'autant qu'Emmanuel Macron l'a bien précisé dans son allocution, cette date du 20 janvier, c'est celle à laquelle une nouvelle décision sera prise si l'épidémie se stabilise. D'où la colère, presque le désespoir qui se dégage d'une nouvelle tribune signée par de grands chefs hier dans le Figaro. Guy Savoy, Anne-Sophie Pic, Pierre Gagnaire, tous réclament des aides beaucoup plus importantes pour tenir fermé 2 mois de plus. D'un mot pour les bars, selon les informations recueillies par Europe 1 cette semaine, pas de réouverture avant le 1er février sans doute.
Alors le salon de l'agriculture, lui, eh bien aussi, est contraint de se réinventer, Fanny.
Oui, la décision d'annuler l'édition 2021 à la porte de Versailles a été prise mi-octobre, très en amont donc. Du coup, ça laisse du temps pour réfléchir à de nouvelles initiatives et notamment cette semaine de l'agriculture française qui est annoncée pour le printemps prochain. Ce sera comme un label à poser sur des événements partout en France pour faire connaître les agriculteurs, leur travail, leur diversité évidemment. Quant au final du concours général agricole, le fameux, elles seront organisées à Angoulême, Châlons-en-Champagne, Montpellier et Tours.
Exactement, vous êtes très bien renseigné. C'est Olivier Allemand, le nouveau commissaire du concours général agricole. Et pour finir, on déguste ensemble un gâteau solidaire avec les plus démunis.
Oui, je vous parlais la semaine dernière de l'inquiétude des associations. Les Restos du Cœur viennent de lancer leur 36e campagne d'hiver et ils s'attendent à un nombre de bénéficiaires record. Alors voilà une initiative pour être solidaire, le Fraternel. C'est le nom de ce gâteau que j'ai là, que vous pouvez acheter à partir de mardi prochain jusqu'à fin décembre sur la boutique en ligne du Secours catholique ou dans une antenne de cette association. C'est un marbré chocolat tout simple, fabriqué par la biscuiterie Maison Colibri. Le gâteau format familial est à 7 euros et tout est reversé au Secours catholique.
Bah très bien.
Puis on pour goûtera soutenir, après l'émission.
Oui, on va goûter après l'émission, même pendant. Je pense qu'on ne pourra pas attendre jusqu'à la fin. Et puis, pour soutenir les Restos du Cœur, il y a aussi le petit livre Très à table, par exemple. Donc, soutenons effectivement les plus démunis. Merci, Fanny Rascle.
Avec plaisir.
D'être passée à notre table.
Laurent Mariotte sur Europe 1.
La grande histoire se passe aussi à table, on va l'entendre avec les menus présidentiels de Guillaume Gomez. Mais les belles histoires se déroulent aussi à table. Je vous en raconte une, tiens, c'est pas moi, c'est tonton Jean-Luc. Il était une fois 3 ogres conviés à la table de l'ami Jean-Luc Petit-Renaud.
C'était pas nous.
C'était pas nous, non mais ça aurait pu, mais racontez-nous tonton, c'était qui?
Eh bien, bonjour les amis. Eh bien, écoutez, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, j'adore les gourmands insatiables, mais les vrais gourmands, hein, ceux qui sont capables de dévorer l'assiette jusqu'à la porcelaine, voyez, tant le plaisir est immense. L'écrivain Yann Kefelec en fait partie. Lorsqu'il choisit une côte de bœuf, eh bien, vous ne croirez peut-être pas, mais il a déjà dans le viseur la deuxième côte de bœuf qu'il mangera juste après. Alors, il enchaîne comme ça, sans fatigue, ce qui pourrait être un supplice pour certains, comme moi, eh bien, pour lui, c'est un véritable régal. Alors, il en va de même avec Gérard Depardieu. Et je me souviens d'un déjeuner. On était au comptoir de son restaurant, on n'était que tous les deux. Et il vola dans mon assiette l'os de ma côte de veau pour la grignoter, rogner le plus petit morceau de viande, comme ça, jusqu'à point d'heure. Magnifique, Gérard. Et je vous passe l'histoire de Pierre Arditi, redoutable finisseur de bécasses, convoqué par des amis chasseurs, je me souviens, pour un bécassage de gueule, j'ai eu la surprise de le voir en train de voler ma tête de volaille qui avait été, comment dire, susautée, complètement reposée sur le bord de l'assiette. Et puis il pique cette tête et il la mange et il la croque. Et il me dit « Ah, tu as fini ton assiette, toi ?» Quel champion. Mais quel champion.
Ah, c'est joli. Trois belles histoires. Yann Kefelec qui est venu à cette table, effectivement. Pierre Arditi aussi. Il nous manque Depardieu, hein. Tonton Jean-Luc.
S'il nous écoute,
amenez-nous Gérard Depardieu à cette table. Vraiment, l'invitation est lancée. C'est vrai qu'il y a plein de bons gourmands comme ça, de vrais gourmets qui finissent les assiettes des autres. J'en connais un qui s'appelle Olivier Pouls. Ouais. À cette table.
Ça m'est arrivé, je dois le confesser.
Vous êtes d'accord. On est tous l'ogre de quelqu'un à table.
Oui, l'ogre, c'est la médaille d'or du bon vivant. Quoi.
Je ne supporte pas le gâchis, voyez-vous.
Il ne faut pas gâcher. Allez, ne bougez pas, on revient juste après ça.
On passe à table sur Europe 1. Laurent Mariotte.
Vous êtes bien à la table des bons vivants. Que mangent les présidents quand ils se rencontrent? De quoi parlent-ils? La diplomatie se met à table dans le dernier livre de Guillaume Gomez. C'est le chef cuisinier de l'Élysée. On vous emmène ce samedi dans les coulisses des menus présidentiels avec Guillaume Gomez. Bonjour Guillaume.
Bonjour.
Bonjour.
Soyez le bienvenu à la table des présidents aux éditions du Cherche Midi. Un très joli livre avec des menus, les vrais menus. Il y a les photos de tous les menus présidentiels. À l'intérieur, c'est un bel objet de collection. Tiens, avant de parler du contenu, un petit mot sur les droits d'auteur, reversés totalement à une association qui aide à lutter contre la pauvreté à Madagascar.
Voilà, alors les cuisiniers ont un peu de lumière sur eux, si cette lumière peut servir à éclairer leur cause. Voilà, et donc là, oui, les actions partent pour deux écoles, deux instituts que j'ai à Madagascar avec la Fondation École de Félix pour sortir les enfants de la grande pauvreté.
Alors parlons de ce beau livre avec, comme je le disais, des recettes historiques, des menus emblématiques. Vous êtes un collectionneur de menus à la base, Guillaume?
Alors, je suis cuisinier au départ, donc à l'Élysée.
Depuis 97
à l'Élysée. Et en fait, je les vis, ces menus, je les ai servis, ceux que j'ai, je les stocke. De temps en temps, on revient un petit peu dessus, mais pas autant que ça. Donc du coup, j'ai décidé maintenant, il y a quelques temps, de faire un don à la Bibliothèque Nationale de France pour que tous ces menus soient disponibles du grand public, de toutes celles et ceux qui voudraient les consulter, notamment par le fonds Gallica, librement, gratuitement, et également pour toutes celles et ceux qui pourraient s'intéresser à l'histoire de ces menus et à travers ces menus, la photo d'une époque.
Alors, très belle initiative. Alors, ce livre retrace des repas importants pour la République française. On est en 1961. Le général de Gaulle reçoit Jackie et John Kennedy. Le 31 mai, il y a un déjeuner de 40 convives et le soir, un dîner à Versailles de 175 invités.
Oui, c'est toujours des moments importants. Vous savez, pour les équipes techniques de l'Élysée, lors d'une visite, il y a plein d'événements qui peuvent intervenir et le repas est quand même un point d'orgue important de cette visite. Et c'est vrai que ça fait partie maintenant de nos attributions avec ce mot de gastronodiplomatie, diplomatie gastronomique, appelez-le comme on veut, de mettre en avant une fois de plus nos savoir-faire, les talents de celles et ceux qui font le terroir.
Alors qu'est-ce qu'on mangeait? On a mangé un velouté sultane. C'est quoi ça, ce velouté sultane? Parce que c'est ça qui est rigolo, c'est que les intitulés des plats aussi sont un petit peu désuets parfois. On a oublié ces noms.
Totalement. Le velouté sultane, alors c'est quelque chose qu'on entend sultane, il faut refaire un petit peu d'histoire, mais quand on entend sultane, c'est pistache. Que vous ayez le velouté sultane, la crème sultane, même on trouve des mousses au chocolat sultane.
Du Barry, c'est le chou-fleur,
c'est la pistache, donc c'est un velouté de volaille. Sultane vient du mot arabe sultan, sultane, je ne sais pas comment on le prononce, qui veut dire autorité, qui vient de Syrie. Et quand au XVIIe siècle, on commence à importer de Syrie justement les pistaches et les pistachiers qu'on a ensuite cultivés dans le monde entier, les cuisiniers à l'époque ont dû commencer à mettre de la pistache dans les soupes et dans les sauces.
Alors dans ce livre, il y a aussi le dîner de gala où René Coty reçoit la jeune reine d'Angleterre. Elle n'a même pas 30 ans, on est en avril 57 là.
Oui, c'est pour ça qu'on a décidé de commencer ce livre par ce menu-là, parce que la reine d'Angleterre est le chef d'État qui a été reçu par tous les présidents depuis René Coty. Donc c'était, je pense, un petit fil conducteur important et ça a joué énormément sur les relations diplomatiques et pour la gastronomie française et une fois de plus à travers la gastronomie, celles et ceux qui font le terroir et le territoire.
Il y avait un foie gras glacé à la gelée de Sauternes à l'époque et elle est revenue sous François Hollande, la reine d'Angleterre, manger à votre table, Guillaume Gomez.
Elle est revenue sous Jacques Chirac, j'étais déjà là sous Jacques Chirac quand elle est venue, je l'ai servie avec foie gras de canard et foie gras d'oie. Elle est revenue sous François Hollande manger du foie gras de canard encore et sous Nicolas Sarkozy et sous Emmanuel Macron à chaque fois manger du foie gras parce que c'est vraiment un mec, elle a.
Ça veut dire qu'elle n'écoute pas son fils, pardon Olivier, elle n'écoute pas son fils, le prince Charles, qui lui veut plus du foie gras, c'est ça?
Disons que la reine est de notre côté, du côté de nos producteurs et de nos éleveurs, pour toute cette filière du foie gras, pour les mettre en avant, et on en a bien besoin, surtout en ces périodes compliquées.
Comment se prépare en amont un menu comme ça? Vous avez totalement carte blanche, ou j'imagine qu'il y a les services des protocoles qui doivent quand même vous envoyer ou des desiderata ou des listes de choses qu'il ne faut pas faire?
Alors, j'ai totalement carte blanche pour le proposer, après, c'est la carte, c'est pas moi qui choisis, on va dire. En ce qui me concerne, donc, la partie cuisine, je vais recevoir ce qu'on appelle les interdits alimentaires, qu'ils soient d'ordre religieux, allergène ou de goût. Et en fonction de ça, je vais proposer un menu au président. Je peux aussi, on a ce qu'on appelle aux couleurs d'Europe 1, notre téléphone bleu de la diplomatie parallèle, où j'appelle les chefs de... Je fais partie du club des chefs qui rassemble les chefs de chefs d'État.
Exactement.
Donc, je peux à ce moment-là... Fondé par Gilles Bragard, exactement. Je peux à ce moment-là appeler le chef pour savoir le petit plus, qu'est-ce qui fera plaisir. C'est comme ça qu'on savait que la reine d'Angleterre appréciait le foie gras, bien évidemment, et c'est comme ça qu'on a pu le proposer.
La devise, d'ailleurs, de ce club très sélect des chefs de cuisine, des chefs d'État, des chefs des chefs, c'est « La politique divise les hommes, la bonne table les réunit ». Est-ce que, du coup, vous avez quelques petits trucs et astuces pour ou le souvenir d'une tension qui a été rattrapée par la table, par un bon petit plat ?
Non, parce que vous savez, au moment où ces tensions s'apaisent autour d'une table, nous, on est en service, on est en cuisine. Donc, je ne pourrais pas vous dire exactement, mais ce qui est sûr, c'est que nous, on paraphrase souvent cette maxime du club des chefs. Il y a beaucoup de sujets qui peuvent diviser, au sein même d'une famille, au sein d'une rédaction, au sein d'une entreprise. S'il y a un sujet qui réunit, c'est la table, et c'est toujours autour de la table que ça s'arrange.
Est-ce que, par exemple, vous faites attention à mettre un plat Élysée parmi les trois plats Élysée, par exemple la soupe VGE ou les pommes
moulées
Élysée, hein, justement Élysée. Est-ce que c'est obligatoire dans le menu ?
Non, il n'y a rien d'obligatoire, parce que par principe, déjà, la cuisine, elle vit, elle n'est pas figée. Ouais. Elle doit ressembler à celui qui l'a fait, et donc elle a vocation à changer. Donc on a des plats qui sont un petit peu emblématiques. Vous parlez de la soupe VGE. Nous, on l'appelle la soupe Élysée truffe, parce que c'est son nom originel.
C'est
sous ce nom-là que Paul Bocuse l'a créé en février 1975, lors de sa remise de Légion d'honneur. Étant lui-même un grand communicant et l'un des plus grands, rentré à Collonges, il a décidé de la mettre à sa carte sous le nom de soupe VGE, et c'est comme ça qu'elle a fait le tour du monde.
Il y a un autre menu que j'aime bien dans ce livre, Guillaume, moi, c'est le menu officiel qui a été fait à Amman, en Jordanie, entre Jacques Chirac et le roi Hussein de Jordanie. Il lui a servi une salade landaise là-bas, pratiquement en plein milieu du désert, c'est ça ?
Oui, c'est vrai que lorsque l'on parlait avec le président et où on soumettait un menu, Monsieur le Président, qu'est-ce que vous pensez d'une salade ? Ah oui, très bien, une salade de gésier, une salade au foie gras, une salade landaise. Avec plaisir, une salade corrézienne. Donc ce sont des interprétations libres de notre cuisine, parce qu'il n'y a pas de recette de salade landaise, il faut juste qu'on y retrouve des produits des Landes et bien évidemment de saison. Là, ce menu figure dans ce livre parce que c'est aussi un moment important, c'est-à-dire que c'est l'un des derniers voyages où la cuisine de l'Élysée suit avec le président. Parce qu'à l'époque, les chefs d'État étaient reçus par l'autorité du pays et rendait l'invitation à l'ambassade de France. C'était une autre façon de faire de la diplomatie. Aujourd'hui, ça s'est arrêté pour des questions de coût. Vous pensez bien que ça coûtait quand même énormément
bien
d'argent,
sûr.
Tout ça. Donc tout ça s'est arrêté et Jacques Chirac a décidé que si on rendait l'invitation, c'était en France.
Alors ce samedi, on vous invite à la table des présidents avec le chef de l'Élysée, Guillaume Gomez. Tiens, quels sont les repas marquants de nos présidents contemporains ? Nicolas Sarkozy, François Hollande et Emmanuel Macron. On vous raconte juste après ça.
La table des bons vivants, Laurent Mariotte.
La diplomatie se met à table avec Guillaume Gomez, le chef des cuisines de l'Élysée. Et ce midi, il nous invite à la table des présidents. C'est le nom de son dernier livre paru aux éditions du Cherche Midi. Alors je dois dire quand même, c'est la première fois que je vois ça dans un livre, moi, Guillaume Gomez. Votre livre, il est préfacé par trois présidents de la République. Nicolas Sarkozy, François Hollande et Emmanuel Macron, et ce n'est pas des petites préfaces, hein. Ils parlent de votre cuisine, ils parlent du style, ils parlent de l'importance de la gastronomie française. Bravo, hein, chapeau.
C'est pas vraiment des préfaces, en fait, ce sont des textes qui parlent de la gastronomie et qui posent le sujet de la gastronomie, puisque c'était toujours un peu compliqué de demander une préface à un président. Bien évidemment, les trois ont un avis sur la gastronomie, et ils ont tous les trois accepté de faire ce témoignage. J'aurais aimé, bien sûr, que le président Chirac y figure, puisque ce sont les quatre présidents pour lesquels j'ai travaillé. Malheureusement, vous savez pourquoi c'est
avant,
impossible.
Ouais.
Mais en effet, ces témoignages me touchent. Ils ont tous les trois une note personnelle et il m'honore, il me touche et ça en fait un livre unique en effet.
Alors chacun de ces présidents a des souvenirs justement à la table de l'Élysée. Nicolas Sarkozy par exemple se souvient d'un repas pris en 15 minutes avec Barack Obama. Dites donc, mais on sait qu'il était pressé, mais à ce point-là...
Oui, ça montre justement, nous on doit s'adapter. C'est vraiment le mot qui...
C'est le maître mot. Hein.
C'est le maître mot, voilà, c'est on s'adapte, on n'a pas le choix. Et croyez-moi, faites l'expérience vous-même, les gens disent « Ah mais 15 minutes, on n'apprécie pas ». Prenez un plateau, mettez-vous devant, une entrée, un plat, un dessert. Croyez-moi qu'en 15 minutes, vous les avez terminés.
Vous leur avez fait quoi alors ?
Alors, on ne rentre pas spécifiquement dans le menu parce que moi,
repas, vous pouvez.
Ce repas, vous savez, j'en aurais jamais parlé si le président n'en parlait pas.
Ouais. À quelle occasion c'était ce menu ?
C'était lors des festivités du débarquement, de l'anniversaire du débarquement en Normandie, à Caen. Et le protocole fait que les réceptions, vous savez, ils prennent un petit peu de retard parce qu'ils rencontrent les militaires, ils rencontrent tout ça. Et le seul moment où on pouvait gagner un petit peu de temps, c'était sur le repas.
Et ils ont mangé quoi alors ?
Et ils ont mangé une entrée, un plat, un dessert avec des produits locaux de saison et je pense qu'ils se sont régalés.
Ah, il veut pas dire, hein, il veut pas dire. Il y avait de la pomme ?
Vous pensez, bah sûrement, on était en Normandie.
Vous n'avez pas ouvert une boîte quand même.
Non, il devait sûrement y en avoir quelque part.
François Hollande débute son texte dans votre livre en disant « La table du président de la République ne peut être normale, elle doit donner aux autres l'idée d'exception ». On est loin du président normal, là. Il admet l'importance vraiment de l'apparat, des produits et puis des plats raffinés, quoi, le savoir-faire français.
Oui, je ne vais pas commenter les commentaires des présidents. Ils livrent, eux, leur analyse de la gastronomie. Je ne vais pas faire l'analyse de ça. Mais
non, mais quel genre de mangeur c'était ?
Oui, ce que je peux vous dire, c'est que pour chacun d'eux, en tout cas, la gastronomie a une place importante. Mais une fois de plus, à travers la gastronomie, pas le chef de l'Élysée, pas les chefs, pas les cuisiniers, toutes celles et ceux qui font ce terroir.
Sous François Hollande, il y a eu un repas très important, c'est le repas de la COP21. Hein. Racontez-nous ce repas quand même.
Un repas historique et pour la planète, pour le thème de ce repas, et un repas historique pour les cuisiniers, puisque c'est la première fois qu'il y avait plus de 192, je crois, chefs d'État et de gouvernement à une même table, donc piloté par le Quai d'Orsay, donc par mon homologue Thierry Charrier, moi-même, avec bon nombre de copains, 5-6 cuisiniers qui étaient venus chacun signer un plat. Et c'est vrai que ça a été un repas historique parce que c'était le moment de montrer que la gastronomie française prenait aussi en compte les enjeux qui sont ceux d'aujourd'hui, sociaux, sociétaux et environnementaux.
Et la saison, rappelez le menu de ce menu de la COP21.
Alors, de mémoire, Yannick Aleno avait fait freneuse avec du navet, Île-de-France.
C'est une soupe, c'est
oui,
ça
hein ouais. Mais alors, c'était revisité, c'était pas vraiment juste une soupe. Il y avait eu une volaille
Alexandre
de Lick.
Alexandre Gauthier du Nord-Pas-de-Calais.
Du Nord-Pas-de-Calais, la volaille de Lick. Il y avait eu les fromages par Marc Vera. Il y avait eu un Paris-Brest revisité par Christelle Brua. Il y avait un beau menu.
À l'Élysée, il y a les cuisines, mais il y a aussi la cave. Alors, on se souvient de la petite polémique qu'il y avait eu en 2013, je crois, quand François Hollande avait décidé de vendre 1200 ou 1300 bouteilles, qui étaient en fait des bouteilles orphelines dont on ne savait pas très bien quoi faire. Mais la cave reste encore aujourd'hui un endroit, là aussi, stratégique et d'un point de vue diplomatique important.
Oui, alors je vais me permettre de rectifier quelques-uns de vos propos. Cher Olivier, ce n'est pas François Hollande qui a décidé, puisque ça avait été acté avant François Hollande, c'est sous le mandat de François Hollande que ça s'est fait, mais il y a eu une polémique.
C'est Nicolas Sarkozy qui a voulu vendre parce qu'il ne buvait pas de vin, c'est
non,
ça ?
Non, pas du tout. C'est pas de la mesure des présidents, c'est l'administration qui gère l'Élysée qui avait décidé ça, mais vous savez, c'est vrai qu'il y a eu une polémique, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en bon gestionnaire de cave, tout simplement, il y avait des bouteilles dans cette cave qu'on n'allait pas ouvrir de par leur valeur peut-être en numéraire et de par même la qualité sans savoir ce que ça allait donner. Les personnes qui géraient justement la cave se sont dit on va vendre une partie de la cave comme pourrait le faire un restaurateur pour racheter de nouveaux vins. Donc bon, ça n'a pas été le cas, la cave a été vendue, on n'a pas racheté de nouveaux vins.
Alors dans sa préface, Emmanuel Macron lui parle de donner le goût de la France aux invités du monde entier. Il y a vraiment cette conscience que notre table est une vitrine de nos savoir-faire français. C'est la phrase d'Alain Chapelle que je cite souvent ici. La cuisine, c'est bien plus que des recettes.
C'est bien plus que des recettes, tout à fait. Vous savez, l'un des premiers, on en a souvent parlé, notamment ces dernières années, Talleyrand avec Carême, donnez-moi de bons cuisiniers, je vous donnerai de bons traités. Donc c'est important en effet, ce côté de la table. On peut passer des messages par la gastronomie. Pourquoi est-ce qu'il y a un engouement pour les semaines de la gastronomie française à l'étranger? C'est qu'à travers la gastronomie, bien évidemment, on passe nos valeurs. Liberté, égalité, fraternité, mais également la transmission, le partage, le savoir-faire, vous l'avez dit, tous nos artisans, les arts de la table, les assiettes, et puis toutes celles et ceux qui font ce terroir. Nos transformateurs, que sont nos charcutiers, nos bouchers, nos fromagers, nos vignerons, mais ceux qui font pousser tout ça, qui élèvent tout ça, nos éleveurs, nos pêcheurs, nos chasseurs, nos maraîchers, et j'en oublie sûrement, mais tout ce qui fait le terroir français.
Et justement, est-ce que vous pouvez vous permettre, malgré le protocole, certaines audaces? Parce que je me souviens que Alain Ducasse m'avait expliqué qu'un jour, pendant le premier repas officiel entre Vladimir Poutine et Emmanuel Macron, il avait décidé de ne pas mettre de couteau sur la table et de servir des plats prédécoupés, parce qu'il voulait qu'ils se concentrent sur leur conversation et pas à batailler, à couper une viande, je ne sais quoi. Est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez proposer ou que vous pouvez faire?
Alors nous, on peut faire de tout, ça va, je l'ai souvent dit, mais on fait du dîner de gala jusqu'au sandwich. Ça peut être des plateaux, ça peut être des choses déjà découpées en effet, parce qu'ils auront autre chose à faire, ils doivent prendre des notes, ils doivent faire des choses. Donc bien évidemment, c'est toujours à nous de nous adapter.
Le président Macron a dit au début de sa campagne, c'est plus un secret, qu'il adorait la blanquette, le cordon bleu aussi. Vous servez des cordons bleus toujours, parfois, à l'Élysée?
Alors, une fois de plus, vous savez que si ça fait fait 23 ans que je suis à mon poste justement et que je le tiens, c'est parce que je ne rentre jamais ni à commenter ce que disent les présidents, ni même à donner leur goût. On a eu souvent l'exemple avec Jacques Chirac.
Et la fameuse tête de veau.
Il en a mangé que deux fois à l'Elysée de la tête de veau, c'est dingue.
Mais après, il en a mangé des centaines de fois parce qu'on se sentait obligé de lui en servir.
Donc en effet, le président s'est exprimé, il a dit « j'aime le cordon bleu », il a dit « j'aime la blanquette ». Bah, nous, on ne s'interdit rien à l'Elysée, on va faire tous les plats de la gastronomie française. Le cordon bleu peut être un plat très intéressant en fonction de la saison.
En buffet
bon.
Aussi, sur les buffets, je sais que vous servez des cordons bleus. Alors, puisque vous ne voulez pas nous dire ce que mange Emmanuel Macron, il nous l'a dit, nous, à la table des bons vivants, Emmanuel Macron, on l'avait rencontré, c'était bien avant la crise sanitaire, c'était en janvier dernier au concours général agricole. Que mange le président? Quel type de bon vivant est-il? Bien, il nous répond.
Alors moi, je suis un bon vivant, un vrai en même temps, là, moi aussi. Le en même temps politique, je le cultive. Je ne choisis pas, je suis compatible avec tout. La vraie blanquette, la bonne blanquette, j'adore ça, mais j'aime les fruits de mer une fois de temps en temps. Je suis autant viande que poisson, mais enfin, quand on va du côté de Rodez, on est très content de se taper une bonne viande. Moi, je l'aime bleu dans ces cas-là, dans la période le gibier.
Et Guillaume Gomez, à l'Elysée, respecte les saisons, il n'y a pas de souci de ce côté-là.
Alors, on respecte les saisons pour les fruits et légumes, et on les respecte aussi... on sert moins de gibier dans les repas officiels, mais moi, je l'aime bien avec quelques amis ou en cercle.
Voilà, le président amateur de gibier, Guillaume Gomez.
Oui.
Vous servez du gibier ou pas à l'Elysée?
On sert du gibier. Vous savez, à l'Elysée, on se veut être la vitrine du terroir et du territoire. Et on n'oublie pas nos dom-toms et bien évidemment tous les beaux produits qui nous viennent de là-bas. Donc on va faire en saison, parce que la cuisine ne doit être de toute façon que de saison. Et comme on se veut la vitrine de tout ce territoire, on va faire de temps en temps une viande, comme l'a dit le président, de Rodez. On va faire une volaille une fois du Nord, une fois d'Alsace, une fois de Milly-la-Forêt, une fois du Gers. On va varier pour que chacune et chacun de ces producteurs puisse se dire un jour: mon travail a été reconnu à la table de l'Elysée.
Toutes les régions montent et descendent à la capitale, à la table de l'Elysée. Merci Guillaume Gomez.
Merci à vous.
D'être venu à notre table, à la table des présidents. Un livre passionnant, magnifique, avec plein de beaux menus. Il y a de belles photos, de belles illustrations. C'est aux éditions du Cherche Midi. C'est une belle idée de cadeau de Noël. Merci Guillaume Gomez.
Merci à vous.
On reçoit Patrick Bruel dans un instant qui va nous parler de son huile d'olive. Elle est à l'Elysée,
C'est ça. Hein, elle n'est pas à l'Elysée parce que c'est Patrick Bruel. Elle est à l'Elysée parce que c'est une huile qui est fantastique. Mais il vous en parlera mieux.
On va en parler. Il est bientôt midi, les amis. C'est l'heure d'accueillir notre invité. Une voix, une présence. Ça fait plus de 30 ans qu'il fait partie des chanteurs et des acteurs préférés des Français. Eh bien, il est ici en chair et en os à notre table et je peux vous dire qu'on est content de le recevoir. Bonjour Patrick Bruel.
Merci et quel honneur pour moi. Bonjour. Parce que c'est un contexte toujours particulier et très agréable de se retrouver avec des amateurs de table.
Et vous en êtes un, vous tenez bien à table, comme disait Ventura. Patrick Bruel, il se tient mieux à table qu'à cheval.
Ça c'est clair, en l'occurrence.
c'est la vérité. Oui. On a écouté le fil extrait de ce dernier album live qui sort le 4 décembre, ce soir ensemble. Comment ça va Patrick Bruel? Comment ça va pour vous?
Ça va bien, dans un moment très particulier pour tout le monde, dans lequel chacun... fait appel à sa faculté d'adaptation.
Et on pense aux commerçants qui rouvrent aujourd'hui. Voilà. Donc voilà, ça y est, les boutiques rouvrent.
Grand bien,
absolument. Enfin. Chanteur, comédien, grand joueur de poker, producteur d'huile d'olive. Vous avez un bel appétit. Hein.
Oui. Hein, un appétit de vie, partir dans de nouvelles aventures, d'entreprendre, de fédérer. Finalement, tout tourne autour des racines, que ce soit artistiquement, que ce soit dans la vie de tous les jours, et finalement sur l'acte de planter des oliviers, de planter de la vigne, parce que maintenant on va en parler aussi.
Parce que
la vigne aussi. Et puis d'avoir des abeilles sur un domaine pour donner du miel et pour expliquer les abeilles aux gens, aux enfants.
On vous a offert des ruches, hein, c'est ça?
Voilà, c'est un très beau cadeau. J'ai eu l'année dernière, il y a deux ans, 14 ruches pour mon anniversaire.
Joli cadeau.
Et les 14 ruches sont là au milieu de la propriété. Et puis elles peuvent aller se nourrir dans un grand espace qui est totalement bio. Donc
préservé.
C'est complètement préservé.
Chers auditeurs, vous allez découvrir un Patrick Bruel, producteur d'huile d'olive et grand amateur de vin aujourd'hui à la table des bons vivants. Juste avant de poursuivre les hostilités, comme on dit, quel est votre goût de la semaine, cher Patrick?
Hier, j'étais à Lille-sur-la-Sorgue, sur le
au
domaine.
Au pied du Luberon,
du Mont-de-Vaucluse et derrière les Alpilles, dans plein milieu, sur ce plateau, sur lequel il y a nos oliviers. Et nous sommes allés faire la dégustation les derniers choix avant la mise en bouteille.
Parce que ça s'assemble comme du vin, l'huile de
l'huile. Parce qu'il y a, on est sur des assemblages, puisqu'on est sur plusieurs variétés, avec essentiellement de la Glando, mais aussi avec de la Picholine ou de l'Henri Blanc. Enfin bon, c'est...
On travaille avec
une femme merveilleuse qui s'appelle Christine Chélan, qui vient de Château-Iran. Et ensemble, on travaille sur ce projet depuis 4 ans. Et c'est vrai que c'est toujours le moment le plus émouvant et le plus délicat. C'est le choix, parce que Est-ce qu'on appuie plus sur l'ardence? Est-ce qu'on est plus sur le nez, sur la
l'artichaut,
bouche,
le fruité
voilà.
vert.
Donc, voilà. Donc, comme on est sur un fruité vert ardent, évidemment, ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de feeling. Donc, voilà, le choix a été fait.
On va les déguster dans un instant.
C'est une grande récolte.
On va les déguster dans un instant vos huiles d'olive. Et puis, on vous dira, chers auditeurs, où les trouver, les huiles d'olive de Patrick Bruel. Les restaurants sont fermés. Vous pouvez commander à emporter. Quand on s'appelle Patrick Bruel, on arrive à commander à emporter, à se faire livrer?
Oh bah, moi, de toute façon, je commande très souvent. Hein.
On prend un pseudo PB, Paul Bismuth?
Non, non.
Ah merde, j'y avais pas pensé, tiens. Quelle bonne idée.
Non, non, oui, bien sûr, je commande.
C'est vrai.
Je commande, puis je cuisine aussi.
Alors, le marché
j'aime
de la
bien,
livraison...
J'aime bien faire à la maison.
Oui, alors, on va en parler aussi de ça. Le marché de la livraison commence à faire parler de lui, Patrick, et pas combien. Dites-nous tout, cher Charlotte.
Non, pas combien. La livraison, effectivement, une part d'ombre, Patrick. Je ne sais pas si vous êtes conscient de ça. Je vais simplement citer Patrice Blanc, pour commencer le président des Restos du Cœur, qui la semaine dernière a dit, je cite, « voir des jeunes arriver au Restos du Cœur avec leur tenue de livreur. Ils apportent à manger, mais n'ont pas de quoi pour eux. » Donc la situation, après 8 mois de crise sanitaire, elle devient sérieuse pour les livreurs, mais aussi pour les chefs qui sont déjà asphyxiés par la fermeture des restaurants. Et ils ont découvert en plus que le marché de la restauration, il était dominé par des géants aux méthodes pour le moins discutables. Hein, ces entreprises bien connues, mondiales, florissantes, qui font l'intermédiaire entre les livreurs et les restaurants avec leur plateforme de réservation en ligne. Et bien, elles prélèvent d'un côté aux restaurateurs des commissions assez exorbitantes, entre 25 ouais. et 30 % ouais, d'un repas livré. Et de l'autre côté, elles s'appuient sur une flotte de livreurs assez précaires, donc mal rémunérés et quasiment sans couverture sociale.
Alors pourtant, en marge des grandes plateformes, il y a des coopératives de livraison éthique qui existent, hein, il faut le dire aussi aux auditeurs.
Oui, il faut le dire aux éditeurs, il y a même une fédération qui s'appelle CoopCycle, ou CoopCycle, je ne sais pas comment on dit, mais a même vu le jour, elle regroupe des coopératives de livreurs à vélo, indépendants, qui ont voulu s'émanciper d'Uber Eats ou de Deliveroo par exemple, et parmi elles, on peut citer, il y a Olvo à Paris, il y a les coursiers rennais, les livreurs bordelais, le Kouglof à Strasbourg, la Poite à vélo à Poitiers. Les chefs y sont même sensibles. Hein. Par exemple, à Paris, Antonin Bonnet, Jean-François Piège, Alexandre Gisbert travaillent avec Olvo, par exemple.
Alors, c'est bien, mais il faut dire que ça coûte un peu plus cher hein, quand oui. même, ces moyens de livraison. La plupart des chefs n'ont pas eu d'autre choix depuis le début du confinement et encore maintenant de faire appel aux grandes plateformes. Donc, comment faire
maintenant? Oui, bien sûr. Alors, évidemment, au début, ils ont fait avec ce qui existait au départ, hein. C'est-à-dire les grandes plateformes. On ne va pas leur jeter la pierre hein, et certains en reviennent déjà. Donc, l'important, en fait, aujourd'hui, c'est de dire qu'il existe des alternatives. Que les livreurs indépendants qui travaillent avec des plateformes engagées existent pour une livraison durable. Il y a TipTok, il y a Resto.Paris. Et ils respectent les valeurs des chefs, ils appliquent des commissions raisonnables, ils emploient des livreurs salariés avec des tarifs établis selon le kilométrage ouais. parcouru.
Et donc ça évolue, voilà.
Voilà.
Donc,
ouais. Et puis alors, il s'agit aussi peut-être de dire que si on veut que le secteur évolue vers un modèle un peu plus vertueux, de dire aux gens qu'ils ont un vrai rôle à jouer parce qu'il s'agirait de pouvoir savoir payer au juste prix une livraison pour garantir la rémunération assez digne de l'ensemble des gens qui font vivre le restaurant, c'est-à-dire cet écosystème qui va du producteur au chef, au livreur, jusqu'au mangeur et qui inclut tout le monde et qui est en train de devenir assez fragile. Est-ce que vous étiez conscient de ce qu'il y a
oui, c'est
derrière ?
Oui, c'est le maître mot de toute cette triste aventure. Mmh. C'est un appel à la solidarité et à la conscience collective. Oui, on peut pouvoir payer un euro de plus, mais si on sait que c'est pour cette bonne cause que vous évoquez.
Ouais,
mais ayons conscience dans tout ce qu'on fait, que tous les secteurs sont touchés, et qu'à travers chacun de nos gestes, on peut aider un secteur.
Et on donne du sens.
Ouais, oui.
Merci Charlotte, et on vous
Merci.
Retrouve demain dans le journal du dimanche avec un bel article sur un livre que vous avez
plus
testé
léger,
qui
oui.
s'appelle Cuite, un livre après les cuites, c'est ça hein
c'est les recettes du lendemain, oui.
Ben on
verra les lendemains difficiles.
Dans le journal du dimanche, ne bougez pas.
On va faire des brancards à un moment.
C'est ça.
Une petite chartreuse. Ne bougez pas, nous sommes ensemble jusqu'à 12h30 avec Patrick Bruel. On vient dans un instant, Patrick, et chers auditeurs, avec un plat rassembleur, convivial, un mijoté de bœuf. Mmh. Quel morceau vous allez devoir deviner? À tout de suite.
Le paleron.
Je ne dis rien.
Peut-être.
À tout de suite après les titres du journal de la mi-journée de Fabienne Lemoile.
Moi, je vais prendre le plat du jour.
On envoie la bohémienne pour la 14, bien chaude. On y va.
Allez, on envoie la tarte au citron à la 5, les gars, s'il vous plaît.
Europe 1. Moi, je vais prendre la brioche perdue.
11h30, la table des bons vivants, Laurent Bariotte.
Merci d'écouter la table des bons vivants, les amis. Nous sommes ensemble jusqu'à midi et demi. Nous avons passé les courges à la casserole. Alors, rien à voir, nous nous sommes mis à la table des présidents avec le chef Guillaume Gomez, le chef cuisinier de l'Elysée. Et nous revoilà avec notre invité, Patrick Bruel. Vous retrouverez évidemment tous les bons moments dans le podcast de la table des bons vivants sur Europe 1. Patrick, quelle place tient la table dans votre vie? On a parlé un petit peu de l'huile d'olive, on va en reparler dans un instant, mais quelle place tient la table vraiment dans votre vie au quotidien?
Essentiel, le partage, la convivialité.
Il y a eu des goûts fondateurs, hein, je me suis renseigné.
Tout le côté épicurien, quoi.
C'est ça, vous êtes un vrai épicurien. Et
j'ai eu la chance de croiser, dès ma tendre enfance, des gens qui savaient aimer la table, qui savaient la faire partager.
Vous parlez du poulet au citron de votre grand-mère Céline?
Ah, alors le poulet au citron de ma grand-mère Céline, ça c'est un souvenir en effet, magnifique. C'est Madeleine de Proust. Mais je pense aussi à quand ma maman s'est remariée dans les années 70. Je me trouvais dans une famille dans les Deux-Sèvres. Et sa belle-mère, donc, à l'époque, était un cordon bleu. C'était exceptionnel. Et le grand-père, enfin donc son mari, donc était une sorte de grand-père d'adoption pour moi, m'a initié à l'art du vin finalement, puisque très très jeune, j'ai eu la chance d'avoir dans un verre un Château Lafite 29.
Et tout le monde
disait, mais pourquoi est-ce qu'on donne ça à un enfant? Et même moi, j'étais un peu étonné, et puis lui disait, mais non, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'une mémoire olfactive ne pourrait pas commencer comme ça? Et, alors, je ne sais pas si ça a joué.
Ça vous a réussi, en tout cas.
Mais en tout cas, je lui en serai toujours très, très reconnaissant.
On va vous faire goûter un vin totalement inattendu tout à l'heure avec Olivier Pouls. On ne vous dit pas ce que c'est. On a servi les vins ici, mais on ne vous dit pas d'où il vient. Vous êtes amateur de viande de bœuf aussi, Patrick Bruel?
Oui, bien sûr.
Hein,
bien sûr.
Vous aimez les bonnes grillades, vous aimez les plats mijotés?
Bah, l'entrecôte en général.
Alors là,
la côte de bœuf, l'entrecôte.
Regardez,
quand c'est bien persillé.
On parlait de livraison tout à l'heure avec Charlotte Langrand. Eh bien, on nous livre à l'instant à la table des bons vivants. Et Constance Binquier vient de nous retrouver, la patronne d'Europe 1. Écoutez, je ne sais pas ce qui se passe. À chaque fois qu'il y a un plat qui est livré, Constance Binquier débarque à cette table. Donc on va lui faire goûter.
Ça vient de chez Ducasse?
Non, ça vient pas de chez Ducasse.
Oh là là.
Ça vient d'un jeune chef.
Julien Boscus, jeune chef du restaurant Origine
dans
le 8e. Paris,
le
8e.
Voilà,
chef aveyronnais, petit-fils de restauratrice, fils de charcutier boucher. Il avait eu une première étoile au restaurant Les Climats. Maintenant, il a son propre établissement. Il est assez doué dans la viande, dans les sauces. Il aime beaucoup aussi les huîtres. Donc, il n'est pas du tout ancré sur un seul produit. C'est un maître saucier. Il n'a pas froid aux yeux. Et là, il y a la joue de bœuf.
C'est une joue de bœuf.
Je voulais vous dire, c'est mon morceau
préféré.
Je l'ai deviné
en mettant la fourchette dedans qui est... Ça a fondu presque comme du beurre et j'ai hâte de le mettre dans la bouche. Maintenant.
Décrivez-nous ce plat, c'est vrai qu'il est beau. Hein, il est...
C'est une joue de bœuf sur un lit de purée.
Ouais. Et avec un joli jus. Hein.
C'est vrai que ce qui est incroyable avec la joue, c'est le moelleux, la texture.
Ouais. Ça se mange fondant,
ça
là.
Fond dans la bouche. Et puis il y a un jus au vin, je crois. Hein.
On se renseigne, oui, sur nos invités.
Vous savez que c'était un de mes plats préférés.
Oui, on savait que vous aimiez la joue de bœuf.
Quelle attention, c'est très gentil.
Et c'est vrai que, on s'est renseigné. Attendez, quand on reçoit Patrick Bruel, on fait pas les choses à moitié parce qu'on sait que vous ne faites pas les choses à moitié en ce qui concerne l'huile d'olive, le vin, on en parlera tout à l'heure. C'est une joue de bœuf qui est cuite avec un joli vin qui vous plaît, qui vient de la vallée du Rhône, qu'on retrouve là-bas, qui est un cépage qui est le Syrah, qu'on retrouve beaucoup en vallée du Rhône. C'est quoi, tiens, le secret de cette cuisson? Eh bien, Julien Boscus vous la donne à vous, chers auditeurs, et à vous, Patrick Bruel, et Constance Binquier, qui a bientôt terminé d'ailleurs ce joli plat mijoté. Écoutez la recette pour réussir cette belle joue de bœuf.
Alors les bons vivants, puisque vous voulez tout savoir, je vous donne mes principes pour une joue ultra fondante. Tout d'abord, le choix du produit. Des belles joues, de préférence françaises, et surtout, on ne les touche pas. On n'enlève pas le gras qui est autour, on ne les pare pas, on ne les coupe pas, on les laisse telles quelles. Ensuite, la cuisson. Ma préférence va au four. On cuit dans une cocotte,
four.
À couvert, bien hermétique. Et ensuite, on cuit longuement et à basse température, comme le faisait notre grand-mère. Juste, à peine un frémissement, on est à 120 degrés maximum et on est parti pour 4-5 heures.
C'est ça, le temps long, 4-5 heures.
Oui, et surtout le 120 degrés maximum.
C'est ça.
Parce que sinon, elle s'assèche.
Bah, exactement.
Et c'est le piège, parce que c'est très difficile de faire la joue de bœuf. J'ai essayé, j'ai pas réussi, parce qu'il faut pas qu'elle s'assèche.
Et bravo Julien Boscus du restaurant Origine dans le 8e
Excellent.
Arrondissement de Paris pour ce joli plat, vraiment. Et qui est un plat en plus, il faut le dire, bon marché. C'est un produit tripier, la joue de bœuf, comme la côte de bœuf, comme le pied de cochon. Donc là, pensons aussi à ces bas morceaux qui ne demandent qu'à être cuisinés simplement, comme ça, mais longuement avec le vin. Constant Constance Binquet. Délicieux. Vous voulez finir. Faites gaffe, Olivier Poul, c'est le guet de votre assiette, elle va la terminer.
Non, délicieux.
Hein, s'il vous plaît.
Moelleux, parfait, les petits champignons, la sauce au vin, j'ai fini un délice. Et j'avais pris un petit peu avant l'huile d'olive de Patrick pour me tapisser l'estomac, ce qui fait que je peux me taper 3 ou 4 assiettes encore.
Mais bien.
Au moins, ne finissez pas, mais j'arrive. Mais
bon, c'est un truc qui se fait, on se tapisse le gosier souvent avec de l'huile d'olive, effectivement.
Surtout quand elle est un peu ardente comme celle-là.
Et voilà, on va parler de l'ardence,
ah oui,
justement. Ardence, ça veut dire que ça chauffe et que ça pique un petit peu dans le gosier, on en parlera tout à l'heure avec Patrick Bruel. Ne bougez pas, on revient dans un instant avec Patrick. Et là, ce sera le Patrick, producteur d'huile d'olive et amateur de vin. Bon samedi midi, les amis, et bonne cuisine hein, si vous êtes en train de la faire.
Europe 1, la table des bons vivants, Laurent Mariotte.
On se met à table ce midi avec une star de la chanson et du cinéma, Patrick Bruel est notre invité. Bien manger, c'est important hein, pour vous Patrick, mais le vin tient une place aussi importante. Hein.
Oui, mais quand on disait bien manger en bonne compagnie et boire du vin en bonne compagnie, partager.
Oui. Sinon on n'apprécie pas le moment.
Oui, je pense que c'est le terrain de rencontre, le terrain de prédilection des rapports humains.
Mais vous avez des oliviers, est-ce que vous avez des vignes?
Oui, oui, ah, on a planté l'année dernière, enfin il y a 2 ans maintenant, et on a fait notre première récolte, qui est une récolte test, alors on verra un peu ce qui se passe. On se dirige sur un assemblage Syrah, Grenache, Cabernet, petite touche bordelaise dedans.
Le Cabernet n'est pas régional, hein, c'est le clin d'œil.
Oui, c'est le clin d'œil bordelais.
C'est de la fusion.
Voilà.
C'est ça. Bientôt votre cuvée alors.
Quel est le casting de votre cave, Patrick Bruel? Qu'est-ce qu'on trouve dans votre cave? Vous êtes quoi? Plus vin d'Alsace, plus Pinot, plus Vallée du Rhône, plus Bourgogne, Bordeaux, vous aimez les Bordeaux?
Grand éclectisme, très heureux de découvrir des nouveaux terroirs, des nouvelles régions, des nouveaux propriétaires, des jeunes vignerons.
Vin nature, la biodynamie, tout ça, ça vous parle, les sans sulfite, sans intrants chimiques?
Oui, bien sûr, puis c'est l'avenir, puis c'est très intéressant. Mais voilà, sur le Rhône, beaucoup de tendresse pour Stéphane Montez, pour Stéphane Augier. Ah,
Saint-Joseph, magnifique.
Voilà, hein. Le Saint-Joseph du,
oh là là.
La cuvée du papy, là, c'est bien.
Ah,
bien,
ça c'est beau ça.
Voilà, c'est des gens que j'aime beaucoup. Et puis la Bourgogne, mais la Bourgogne nous flatte tellement. J'ai une grande chance de boire...
Jolie Bourgogne, vous l'avez sur votre téléphone là, c'est ça?
Oui, je l'ai parce que j'ai pris en photo. Parce que
je sens que ça va nous énerver.
Oui, ça va nous énerver parce que finalement, quand on dit Beaune Romanée, quand on dit Clos du Château et quand on dit Monopole, on peut penser à un domaine, mais finalement, il y a un domaine qui est peut-être un petit peu moins connu, qui est Ligier Belair, et qui est absolument phénoménal. Phénoménal. C'est eux d'ailleurs qui avaient vendu la parcelle de la Tâche à la Romanée Conti.
Et qui possède toujours la Romanée.
Et voilà. Ça a été mon coup de cœur de la semaine.
Vous nous dites que vous êtes curieux en ce qui concerne le vin. Eh bien, ça tombe bien parce qu'Olivier va vous faire goûter un vin inattendu. Alors écoutez, chers auditeurs, parce que c'est un vin auquel, comme la définition le dit, on ne s'y attend pas. Racontez-nous ce vin. Ça vient d'où? C'est quoi, Olivier?
Je vais vous laisser goûter parce que la dégustation à l'aveugle, c'est quand même marrant de s'amuser 5 minutes, même si franchement, si vous arrivez à trouver ça, vous gagnez mon respect éternel parce que c'est vraiment très très très
ça
compliqué.
Couleur,
il y a un piège. Hein,
ça a la couleur d'un pinot, Patrick.
Oui.
Hein, le piège est là. C'est qui est-ce qui travaille aussi bien le pinot noir et qui visiblement n'est pas en Bourgogne puisqu'il y a un piège.
Voilà. Écoutez, vous avez gagné. Mais alors pour ce qui est de trouver la région,
est-ce qu'on est en France?
Oui, on est en France.
Ah, on est en France.
On est en France. Oui. Mais dans une région totalement inattendue pour trouver du pinot noir et surtout du pinot noir de cette qualité.
Au nord de la Loire.
On n'est pas en Bretagne, quand même.
On n'est pas loin. On est en Normandie, finalement.
En Normandie.
Ouais. Non.
On est en Normandie. Formidable. Alors, la Normandie, c'est plutôt le pays
des pommes. Je sentais bien une petite pointe
de
pomme. Ça sent la pomme.
Il y a la pomme.
Eh ben, je vous garantis qu'il n'y en a pas.
Il n'y en a pas.
Et c'est une histoire assez incroyable. Alors, le domaine s'appelle les Arpents du Soleil. En 1995, ce petit vignoble était replanté. Alors, on le doit à Gérard Sanson, qui est un ancien notaire, qui avait fait une série de recherches, notamment sur le fonds normand à Caen. Il avait découvert qu'au Moyen-Âge existait un petit vignoble dans ce village de Grisy, qui est une 30aine de kilomètres au sud de Caen. Vignoble qui a disparu, bien évidemment, avec la crise du phylloxéra. Et il s'est dit, mais finalement, si ce vignoble a existé, il doit bien y avoir une raison. On plantait jamais de la vigne par hasard. Donc il a fait des études de sol. On s'est rendu compte que ce terroir était extrêmement similaire au terroir qu'on pouvait trouver en Bourgogne, c'est-à-dire des argilo-calcaires. Il a replanté un demi-hectare en 1995. Il a ensuite augmenté un petit peu la superficie. Aujourd'hui, je crois qu'il y a entre 6 et 7 hectares de ce tout petit vignoble. Et c'est vraiment travaillé à la bourguignonne. Alors, il a planté du pinot noir, mais il a planté d'autres cépages en blanc. Il a planté de l'auxerrois, il a planté du pinot blanc aussi. Et on retrouve... Non, il n'y a pas de chardonnay. Peut-être ça viendra.
Ben oui, parce que...
Mais ce serait logique, bien évidemment. Mais c'est vrai qu'en plus, il faut bien avouer que le réchauffement climatique l'aide probablement un petit peu, puisque c'est un vignoble qui est planté au sud, qui bénéficie d'un très joli ensoleillement. Et vous l'avez vu, à l'aveugle, c'est impossible de le situer, évidemment. Et on a cette trame bourguignonne dans le vin. Et cette finesse du pinot, cette élégance.
Et en plus, quand vous avez dit ça tout à l'heure, et que vous savez qu'il y avait un piège, je vous ai posé la question sur l'étranger, mais sans y croire. Je ne peux pas penser qu'en Australie...
On n'a pas cette finesse.
On a Pavelet ou n'importe où, où on fait du pinot noir. On ne fait pas ce pinot noir-là. Ça, c'est typiquement français, celui-là.
On aurait une chaleur beaucoup plus prononcée sur l'Australie.
Là, c'est formidable. Félicitations aux producteurs.
Ah, puis il fallait trouver celui-là.
Gérard Sanson, c'est ça.
Gérard Sanson, les Normandie. Les arpents du soleil.
Ça coûte combien?
Alors, ça se trouve. Il y a une e-boutique, vous pouvez les acheter en ligne, vous pouvez aller sur place, évidemment. Ça coûte autour de 10-12 euros la bouteille. C'est des bouteilles de 50 centilitres parce qu'il n'en produit vraiment pas beaucoup. Donc, c'est tout à fait acceptable. Mais il fait des magnums aussi.
C'est tout ou rien. Quoi.
Voilà, il fait des magnums.
Parce que c'est un vin qui a un besoin d'évolution. Donc, en mini-bouteille,
ça peut se garder 5-10 ans sans aucun souci. Je ne suis pas inquiet du tout quant à l'évolution de ce vin.
La patronne d'Europe 1 veut passer des commandes. Je me sens très intéressé.
Des commandes, alors je me dis, est-ce que. Du vin rouge normand, du pinot noir, il y en a combien par an, les bouteilles ?
Sur
7 hectares, il y a pas beaucoup.
Il a 7 hectares, et en plus, sur les 7 hectares, il y a différents cépages. Donc là on est probablement sur quelques centaines de bouteilles de pinot noir seulement. C'est ultra confidentiel.
En plus, il a pris une forme
cylindrique.
Alors là, c'est le millésime 2016 qu'on a goûté. Vous voyez, le vin à 4 ans, et il se tient encore parfaitement droit.
Et il en fait des magnums. Et comme dirait Gabin dans Un singe en hiver, un magnum, vu qu'on est deux. Voilà, c'est ça.
Surtout si l'autre ne boit pas beaucoup.
Exactement. Ne bougez pas, on revient dans un instant avec le grill des bons vivants et on va vous connaître un petit peu plus de l'autre côté de la fourchette, cher Patrick. Et on va parler, enfin et surtout, déguster votre huile d'olive.
Avec plaisir.
A tout de suite.
On passe à table sur Europe 1. Laurent Mariotte.
Dernière partie de la table avant le journal de midi et demi. Patrick Bruel, une belle joue de bœuf, un vin normand. Est-ce que la table est à votre goût depuis midi ?
La table est splendide et la compagnie est formidable. Mais c'est vrai que la table est de choix.
Vous êtes adorable, vous êtes adorable.
Non, on vient vous de vous découvrir. Adorable. Merci pour l'accueil.
On vient de vous découvrir amateur de vin. Maintenant, on va découvrir le producteur d'huile d'olive. Domaine de Léos, c'est à côté de l'Isle-sur-la-Sorgue, au pied du Luberon, dans nos belles Provences. Léos, déjà, c'est un joli clin d'œil. Hein.
Oui, c'est Léon et Oscar, mes enfants.
Vos enfants.
Parce que je tiens à ce qu'ils soient près de leurs racines. C'est cette maison. On a acquis cette maison quasiment à la naissance de mon premier enfant. Et c'est vrai qu'ils ont une attache toute particulière. Maintenant qu'ils habitent Los Angeles, c'est vrai que je voulais absolument que leurs racines françaises soient là.
La terre.
Ils sont attachés à la terre, ils sont attachés à ce qui s'y passe. Ils s'intéressent beaucoup à tout.
Elle date de quand, cette passion pour l'huile d'olive? Alors, comment ça s'est passé?
La passion pour l'huile d'olive vient avec la passion pour les bonnes choses, pour la cuisine. Et en général, j'étais très, très, très tourné vers les huiles très ardentes, les fruits et verts italiens. Les huiles des Pouilles, les huiles de Toscane. Quand un jour, il a été question, peut-être, parce qu'on avait quelques arbres, de faire une huile comme ça pour les copains ou pour la famille, juste pour nous, voulait faire 5-6 bouteilles, j'ai eu tendance à avoir envie que ça ressemble un peu à ce que j'aimais. Et le terroir s'y prêtait, et les oliviers s'y prêtaient. Et c'est vrai que cette huile était un peu touchée par la grâce, parce que dès sa première année, donc H. de Léos a remporté la médaille d'or de la Fidol.
En 2016, ouais, voilà. En 2017 pour la récolte 2016. Voilà, ouais.
On a fait 2016, 2017, 2018, et en 2019, on a gagné la médaille d'or au concours général du Salon de l'Agriculture. Et aujourd'hui, on a 24 médailles avec cette huile qui est un peu partout. Et
on la trouve où alors justement cette huile?
On la trouve dans toutes les grandes épiceries fines et puis sur le net. On vend beaucoup beaucoup sur internet en vente directe.
On les a vos huiles, on va les déguster justement. Ah ouais. Tiens, on va commencer par vous, Charlotte.
Alors,
vous avez laquelle?
Parce qu'il y a plusieurs... ravie parce que moi j'ai le fruité vert ardente. Très ardente, et ça fait partie de ces nouvelles huiles d'olive, justement. Enfin, avant, on avait l'habitude, il faut le dire, hein, d'une espèce de liquide gras et plat pour cuire. Enfin voilà, c'était pas vraiment folichon. Et là, on a des huiles fruitées, vertes, qui ont beaucoup de peps et qui correspondent, en fait, je crois que vous faites des récoltes assez précoces, hein, c'est ça, on récolte les olives très tôt pour avoir ce peps-là, vous en faites
on récolte le plus tôt possible, parce que comme on n'est pas forcément attaché au rendement et plus à la qualité, on récolte quasiment les premiers au mois d'octobre et on fait une extraction à froid instantanément.
Première pression à froid, donc je le dis aux auditeurs, encore une fois, quand on est à la maison, il faut avoir deux types d'huile d'olive. Une huile, on va dire, moyenne, basique pour les cuissons, mais les huiles, par exemple, de Patrick, elles sont parfaites pour les assaisonnements parce qu'elles font partie, comme un ingrédient qu'on mettrait dans une salade. Elles ont un vrai rôle à jouer.
On peut les mettre sur un plat de pâtes, on peut les mettre sur une pastèque, sur du melon.
Bien sûr.
On peut les mettre sur une
sur des coquilles Saint-Jacques, par exemple, en ce moment, sur des poissons crus, des choses comme ça.
C'est magnifique.
Ça, c'est extraordinaire. Sur les poissons crus, c'est extraordinaire.
C'est un condiment en tant que tel. Moi, j'ai le fruité mûr, donc une huile qui est beaucoup plus ronde, qui a là aussi une très grande complexité en bouche. Et c'est vrai que je dois vous félicitez pour ça, parce que vous n'avez pas mis votre tête sur la bouteille en disant c'est l'huile de Patrick Bruel en faisant un produit commercial.
En fait,
vous êtes vraiment allé chercher dans une démarche ultra qualitative.
Oui, complètement. Cette histoire a commencé il y a 4 ans et il n'était absolument pas question de se mettre en avant. Parce que tout simplement, je pense que le produit doit être plus fort que moi ou que le représentant. Les artistes en général qui mettent leur nom sur des bouteilles, sur des marques, je pense se tirent un peu une balle dans le pied. Parce que ça enlève une part de crédibilité. Je voulais que l'huile fasse son chemin. Et c'est vrai qu'après 3 ou 4 médailles d'or, après des récompenses partout, un jour on m'a salué pour ça. Je dis au fait, c'est lui qui le fait. Je préfère ça plutôt que de dire tiens, j'ai fait ça. Et vraiment, les gens sont contents. Puis les grands chefs ont adoubé cette huile. C'était ça. C'est que dès le début, le premier était Guy Savoy, qui dès le début a pris l'huile et a fait un commentaire. Alain Ducasse m'a dit je ne pensais pas qu'on trouverait ça un jour en France. Ensuite, ça a été.
Vous avez même fait un chocolat avec Alain Ducasse.
Et on a fait un chocolat avec Alain, un chocolat à l'huile d'olive, avec une ganache dans laquelle il y avait une petite olive concassée. Ça, c'était l'idée de génie de Ducasse. Et puis Guillaume Gomez, qui était là tout à l'heure, qui a fait rentrer cette huile à l'Élysée.
Exactement. Vous avez bien suivi.
Ça a été une merveilleuse surprise.
Eh ben merci Patrick pour ce joli présent. Et ne bougez pas, ça y est, c'est l'heure de passer sur le grill du questionnaire des bons vivants. Ça chauffe, ambiance grillade et barbe. Oh oui, disons, ça chauffe, ça crépite même. Quel est le goût de votre enfance, cher Patrick ?
Je pense que c'est les réunions de famille et en effet, probablement le poulet au citron de ma grand-mère.
De votre grand-mère Céline. Ouais, le premier plat que vous avez cuisiné ?
Oh, je pense que ce sont des crêpes. J'aimais bien faire les crêpes et j'essayais de trouver. Mais même quand j'ai eu 14-15 ans, j'ai eu envie de créer un produit qui s'appellerait pâte à crêpes et qui était dans une bouteille où tout était réuni pour pouvoir faire des crêpes simplement.
Ah oui ?
Alors j'avais voulu déposer ça à l'époque et on m'avait dit...
faites-le, ça va cartonner ça maintenant.
Mais je pense que depuis ça a été fait, j'imagine en tout cas. Et oui, c'était les crêpes, c'était mes premiers plats.
Les crêpes Patrick Bruel, votre plus beau repas dans le sens inoubliable ?
C'est pas un repas où j'ai beaucoup mangé, mais c'était pourtant dans un très très grand restaurant. C'était le Grand Véfour à Paris, mais c'était ma demande en mariage. Donc,
joli.
Je me souviens pas d'avoir beaucoup, ni elle ni moi n'avons beaucoup mangé ce soir-là.
Manger avec les yeux.
Voilà.
Votre pire raté en cuisine.
Oh là là, il y en a plein. Non mais comme disent mes enfants, il y aura eu un avant et après confinement, parce que pendant le confinement, j'ai énormément cuisiné et comme j'étais tout seul. À la maison, pendant 6 semaines, les enfants étaient dans le sud avec leur maman. Donc j'ai tenté des choses, j'ai essayé des plats, je me suis
pas mal de pâtes. Hein.
J'ai fait des pâtes aussi, oui. Mais les pâtes, ça, je savais, j'ai une grande qualité, c'est la cuisson des pâtes.
Oui, vous êtes
ça,
un papate. Hein.
Ça, je fais très très bien les pâtes. Okay. Non, mais eux, je leur fais des plats. Le dernier plat que je leur ai fait, qu'ils ont surnommé le samba samba, je sais pas pourquoi. C'est une escalope de veau à la crème et avec un riz pilaf.
Ah, joli.
Voilà, j'agrémente tout ça avec quelques assaisonnements improvisés.
La Normandie et les îles en même temps, quoi.
C'est ça.
Exactement.
Vous pourrez le boire
et la Provence, parce que il y a quand même beaucoup de thym dans tout ce que je fais.
Vous pourrez le boire avec ce vin normand, tiens, qu'on vous a conseillé avec
Olivier. Le vin normand, on réalise pas qu'on est avec un grand pinot noir.
C'est vrai. Votre bande originale pour cuisiner, Patrick ?
L'opéra, je pense. J'aime les grands airs d'opéra et puis je me mets parfois à faire de l'opéra pendant que je cuisine. Voilà, quand je suis tout seul, ça gêne personne.
Quel plan mèneriez-vous sur une île déserte ?
Franchement, la joue de bœuf, c'est vraiment mon plat préféré, donc merci pour ça. Et puis, je ne peux pas me passer de noisettes et d'anchois.
Et quelques bouteilles avec ?
Ah ben oui, il m'a dit plat.
Oui, plat.
Bouteille.
Oui, oui.
Ah, bouteille, c'est le bateau qui suit.
C'est ça. C'est le conteneur qui est derrière. Qui sont les invités de votre dîner idéal, Patrick ?
Victor Hugo,
ouais.
Et Romy Schneider.
Ah, la femme amoureuse dans toute sa splendeur.
La beauté incarnée.
Et puis rayonnante.
Et si Simone Veil peut se joindre à nous, ça peut être...
Ah, c'est un joli casting.
Ça peut être un très grand moment.
Et pour terminer, le mot de la fin, F-A-I-M, Patrick ?
Carpe diem.
Ah, bon. C'est ce qu'on va faire. Voilà, hein. On va profiter du moment présent. Merci infiniment,
merci
Patrick,
à vous pour l'accueil,
d'être venu
merci.
À cette table. Je rappelle votre album live qui reprend tous ces grands tubes de la tournée, cette tournée
en fait,
de dingue.
C'est cette tournée folle qu'on a fait depuis février 2019, qui s'est terminée à l'Arena de Paris La Défense.
Exactement.
D'où cet enregistrement. La tournée devait reprendre en mai dernier, puis en septembre. Et maintenant, avec tout ce qui s'est passé, nous avons reconduit les dates pour mai, juin et juillet prochain.
Mai, juin en tournée.
Et je pense que le 6 mai, on sera tous à Clermont-Ferrand pour ouvrir cette tournée.
Et
vraiment, je remercie infiniment le public pour sa fidélité et surtout pour d'avoir gardé, à 90% carrément des gens ont gardé leur ticket. Et non seulement moi, je trouve ça très flatteur et je suis très heureux pour moi, mais je suis aussi très heureux qu'il l'ait fait pour certains festivals, dans lesquels je ne suis pas forcément, mais ils ont gardé leur ticket parce que sans cet acte solidaire dont on parlait tout à l'heure, certains festivals n'auraient pas tenu.
Soutenons les restaurants, mais soutenons la culture, bien entendu
bien
aussi.
Entendu.
Merci Patrick Bruel. Ce soir ensemble, ce magnifique double album live, la tournée qui reprend à partir de mai-juin sur toutes les routes de France. Vous étiez un très bon vivant, mais on n'avait pas de doute là-dessus.
Merci infiniment
merci
pour l'accueil, vraiment. Merci
à toute mon équipe de m'avoir aidé à préparer cette émission. Vous la retrouverez, l'émission, sur europe1.fr avec le podcast. Vous êtes nombreux à cuisiner avec le podcast, donc continuez. La semaine prochaine, nous serons avec le dessinateur Jules. Ne bougez pas, dans un instant, c'est Europe Midi avec Fabienne Lemoyle. Bon week-end sur Europe 1. Merci Patrick.
Merci beaucoup à vous.